par actualité. Nous sommes le mardi 1er novembre 2016. Bonjour à toutes et à tous. Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter ces paractualités et les titres suivants, notamment du 3 au 6 novembre, la deuxième foire numérique de la BANQ à la grande bibliothèque. Et puis mieux communiquer pour diminuer les symptômes à long terme de l'autisme. Front commun du communautaire en région. Un petit garçon aveugle voit sa maman pour la première fois à l'âge de 10 ans. Je vais m'entretenir avec deux personnes aujourd'hui. Laurent Trépanier-Capistran, qui est agent de défense de droit pour Execo et qui participe en ce moment même au Forum Jeunesse Canada à titre personnel. Alors c'est donc un témoignage en direct que nous aurons. Et je vais aussi m'entretenir avec Walter Zelaya, directeur Moelle Épinière et Motricité Québec, un petit peu plus tard à l'émission. Curieux de découvrir l'abondante offre numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ donc, et bien les amateurs de toutes les générations sont conviés à se familiariser avec les ressources numériques gratuites accessibles à distance sur le portail banq.qc.ca lors de la deuxième foire numérique de BANQ qui se tiendra dans le hall de la Grande Bibliothèque du jeudi 3 au dimanche 6 novembre prochain. Alors avis aux gens de tous les âges, avis de lecteurs, amateurs de musique, cinéphiles, jeunes créatifs, parents, généalogistes en herbe ou passionnés d'histoire, un nombre impressionnant de bases de données et de banques d'images et de films n'attendent que vous. Par sa foire numérique, BANQ souhaite faire connaître l'étendue de son offre numérique. Cette mission est soutenue par le gouvernement du Québec, dont le plan culturel numérique permet notamment à l'institution de contribuer toujours plus fortement au rayonnement de la culture québécoise en ligne. La foire numérique s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les ressources numériques de BANQ et profiter de leur utilité au quotidien, a précisé la présidente directrice générale de BANQ, Christiane Barbe. Présent dans tous les stands de la foire, le personnel expert accompagnera les participants dans une vaste visite virtuelle personnalisée des précieuses ressources accessibles à distance à tous les abonnés. Les visiteurs auront le loisir de visiter 7 stands différents, d'assister à quelques-unes des 36 mini-causeries de 5 à 10 minutes et de visionner quelques vidéos sur les ressources numériques de l'institution. Les différents stands permettront notamment l'exploration en ligne, de livres, de revues, de journaux d'ici et du monde entier, de musique, de films, de ressources adaptées aux besoins des personnes atteintes d'une déficience visuelle, de collections destinées aux jeunes de 13 ans et moins, ainsi que des projets Wikisource de BANQ. Le personnel spécialisé de BANQ sera sur place pour animer la foire, échanger avec les visiteurs et partager avec eux sa grande connaissance des contenus à leur disposition. Mieux communiquer pour diminuer les symptômes à long terme de l'autisme. Une étude publiée dans la revue médicale Lancet révèle qu'une intervention précoce pour aider les parents à mieux communiquer avec leur enfant autiste permet de diminuer les symptômes à long terme. Les chercheurs ont comparé 152 enfants de 2 à 4 ans, divisés en deux groupes. Les enfants du premier échantillon ont reçu un traitement intensif habituel, c'est-à-dire une intervention ciblée uniquement sur l'enfant. Et l'autre groupe a bénéficié d'une thérapie incluant la participation des parents. Eh bien, 6 ans après ces prises en charge, le deuxième groupe a démontré une plus grande diminution de symptômes que le premier. C'est tout simplement la première étude au monde de tous les temps qui montre de façon irréfutable un effet à long terme d'une intervention avec des qualités et des standards qui seraient les mêmes que, par exemple, ce qu'on aurait pour un médicament. Se réjouit le docteur Laurent Motron, psychiatre, spécialiste de l'autisme et chercheur en neurosciences à l'Université de Montréal. Les parents doivent éventuellement et idéalement consacrer de 20 à 30 minutes par jour à la maison à des activités de communication. C'est une intervention de guidance parentale, c'est-à-dire qu'on agit sur les parents pour les aider à mieux communiquer avec leurs enfants autistes et avec toutes leurs particularités. Ce n'est pas un professionnel qui agit en 1-1 avec un enfant. Ce que ça veut dire, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'une intervention qu'on ferait avec l'enfant, mais c'est terriblement efficace, résume-t-il. « On en parle beaucoup du fait que le gouvernement offre aux jeunes une occasion exceptionnelle de faire part de leur vision d'un Canada accessible. Et lorsqu'on a l'occasion de pouvoir parler avec quelqu'un qui est sur place et qui participe à un de ces forums jeunesse, eh bien, on est content de lui parler. Laurent Trépanier-Capistran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agent de défense de droit pour Execo.
Tout à fait, exactement.
Et vous avez décidé d'aller à ce forum Jeunesse Canada par vous-même. Hein? À titre personnel, je dirais.
Ben exactement, mais il faut comprendre aussi que cette démarche-là, évidemment, est liée avec le poste que j'occupe, évidemment, de façon professionnelle. Mais oui, c'est mon jeune âge, en fait, me permet de participer à ce forum-là. Et donc, j'ai décidé de saisir cette occasion-là, en fait, pour participer à cet événement-là qui est bien particulier.
Alors, ça se passe où?
En fait, ça se passe à l'Université Carleton à Ottawa.
D'accord.
Donc, un peu en retrait du centre-ville d'Ottawa.
Alors, ça se passe comment sur place?
Eh bien, ce matin, je vous dirais qu'on a été accueillis par une assemblée, une plénière avec plusieurs allocutions, dont une allocution de Mme Caltrow et une allocution aussi de Mme Michelle Stilwell, qui est ministre du Développement social, et également avec, il faut noter aussi la présence d'un sénateur, M. John Monson. Donc, ce matin, c'était vraiment ces allocutions-là qui ont pris la place au forum. Et puis, il n'y a pas très longtemps, là, je vous dirais, il y a environ une heure, on a été redirigé, l'ensemble des participants du forum, divisé en quatre groupes, donc pour discuter davantage de questions qui intéressent cette future loi-là sur l'accessibilité.
Autrement dit, je viens interrompre un petit peu ces ateliers-là. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Alors vous, quel est votre groupe?
C'est seulement une division de groupe, dans le fond, pour avoir une plus grande intimité, je vous dirais, pour discuter des
D'accord.
questions. Mais les questions qui sont abordées sont toutes les mêmes pour l'ensemble des participants du forum.
Alors, évidemment, question sur l'accessibilité, l'inclusion. Hein? On revient toujours à cela, bien sûr, et éliminer tous les obstacles.
Exactement. Donc, question d'augmenter l'accessibilité, d'éliminer les barrières, mais aussi des questions sur le leadership des jeunes qui sont présentés ici et qui seront discutées plus tard dans la journée, et comment le gouvernement, en fait, peut s'impliquer pour dans le fond, susciter davantage de ce leadership-là chez les personnes en situation de handicap, mais également pour augmenter, évidemment, l'accessibilité, diminuer les barrières.
Bien sûr. Est-ce que les jeunes répondent présents? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous?
Tout à fait. Énormément de participants.
Tant mieux.
Je vous dirais, à vue nez comme ça, qu'on peut compter sur environ une centaine de participants. Là, évidemment, c'est une estimation maison, mais il y a beaucoup de monde ici, et pas uniquement des participants, mais aussi des gens issus de la classe politique et beaucoup de fonctionnaires aussi. Donc, on sent que il y a un engouement là, autour de cet événement-là.
Oui. Avez-vous l'impression, je ne sais pas si vous avez eu le temps dans vos discussions, peut-être notamment au niveau de ce petit groupe qui s'intéressait à l'accroissement de l'accessibilité, avez-vous l'impression que ces jeunes-là sont quoi, plus ou moins sceptiques par rapport à ce que veut faire le gouvernement, ou au contraire, sont-ils pleins d'espoir, sont-ils désillusionnés, est-ce qu'il y a un peu de cynisme, quelle est l'ambiance?
En fait, je vous dirais, pour être franc avec vous, on vient tout juste de débuter, mais on sent pas de scepticisme, on sent pas de cynisme. On sent peut-être un peu des critiques envers la société, comment elle est construite, comment elle est organisée, mais envers l'initiative qu'a pris le gouvernement, on sent pas non de scepticisme ou de cynisme, du moins pas à cette étape-ci dans la journée. Donc, je vous dirais en fait que l'initiative semble être accueillie assez positivement.
Et vous-même? Comment vous avez, par exemple, lorsque Mme Caltrow s'est adressée à vous ce matin, comment vous avez perçu son message?
Bon, moi-même, par rapport au message de Mme Caltrow, je dois vous dire que j'ai été un petit peu inquiété par certains propos, notamment au niveau du droit de demander de l'aide. C'est une phrase qui est revenue à une ou deux reprises dans son allocution. Bon, Personnellement, je trouve que ça peut être inquiétant de ne pas parler plutôt d'autonomie que les personnes en situation de handicap donc doivent avoir cette autonomie-là, pardon, d'être capable de poser les mêmes gestes dans les mêmes environnements que toute autre personne. Donc, j'ai trouvé cette partie-là un petit peu inquiétante, surtout lorsqu'on vient à parler de législation. Donc, j'ai hâte de voir aussi comment ce message-là de Cultural va se transposer dans le reste.
Bon, parce qu'en même temps, Laurent Trépanier-Capristan, si je m'abuse, si on veut être autonome, il faut avoir eu un peu d'aide avant. Je veux dire, c'est parce qu'on aura eu de l'aide, c'est parce que l'accessibilité aura été établi qu'on peut parvenir à être autonome, non?
Ben en fait, je pense que si on organise la société, les processus, les services à la base, lorsqu'on les crée de façon accessible et universellement accessible, je pense en fait que l'autonomie pour tous peut être assurée. Et on le dit souvent, mais c'est important de le répéter, cette accessibilité-là universelle, elle profite pas uniquement aux personnes en situation de handicap, mais aussi à l'ensemble de la société. Donc, je pense que si on réfléchit à la base à une organisation qui est accessible pour tout le monde, eh bien, on peut, tout le monde peut être autonome en fait.
Et c'est parfait parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Laurent, réfléchir avec d'autres à ce sujet-là. Et je vous souhaite de passer une belle journée éclairante, inspirante. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter de mieux et croire en l'avenir.
Bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Mais je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Au revoir et bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Et puis les organismes d'action communautaire feront front commun dans le cadre d'un mouvement national qui aura lieu les 7, 8 et 9 novembre afin de revendiquer le respect de leur autonomie et un rehaussement de leurs subventions de base. Alors différents moyens de pression, dont une grève, sont à prévoir. Localement, plusieurs actions sont prévues, dont une rencontre notamment avec le député François Bonnardel ainsi qu'une assemblée extérieure symbolique, beau temps, mauvais temps des membres de la Corporation de développement communautaire, la CDC, à la terrasse Johnson. Nous sommes ici en Haute-Yamaska, vous l'aurez peut-être compris lorsque je vous ai parlé du député Bonnardel. Plusieurs organismes communautaires fermeront leurs portes carrément entre le 7 et le 9 novembre. D'autres ont préféré adopter des moyens de pression comme ne pas répondre au téléphone en laissant un message explicatif, réduire les heures d'ouverture ou annuler toutes les activités. La BARAC, B-A-R-A-K, a fait preuve d'imagination en organisant une activité avec les jeunes, mais en ne leur fournissant aucun matériel. Les jeunes devront user de leur débrouillardise et créativité pour pallier aux coupures et réaliser l'activité, peut-on lire dans le communiqué. Le 7 novembre, les 125 députés provinciaux recevront la visite des groupes communautaires. On veut faire entendre le message aux élus. À Granby, nous avons la chance, même s'il est dans l'opposition, d'avoir un député, M. Bonnardel, qui travaille constamment et qui est déjà bien au courant de la situation des groupes communautaires, estime M. Dupont. Pour la dernière journée du 9 novembre, un autobus rempli partira en direction de Sherbrooke pour participer à un grand rassemblement où se tiendront une conférence, une marche ainsi qu'une soupe populaire et le même jour, une cinquantaine de personnes se rendront à Sherbrooke pour prendre part à une grève, conférence, distribution d'une soupe populaire et marche sont au menu. Le documentaire « Les alliés invisibles » met en valeur les services offerts pour les personnes proches aidantes de notre territoire. Il démystifie ce qu'est une personne proche aidante et permet au public de se mettre en action pour supporter les aidants autour d'eux. Ce documentaire donne le coup d'envoi à la Semaine nationale des proches aidants et des proches aidantes qui a lieu du 6 au 12 novembre. Alors, Autisme Centre du Québec, la Passerelle, la Société Alzheimer du Centre du Québec et l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska vous invitent à la soirée de lancement qui aura lieu le 9 novembre à 19h au Mont-Bénilde, au 1325 Avenue des Pensées. À Bécancour, cet événement spécial est conçu pour présenter notamment le documentaire en question et conscientiser le public sur l'importance des services offerts aux personnes proches aidantes et à l'aide que leur entourage peut offrir. « Je l'avais déjà reçu au mois de septembre dernier à l'occasion des Journées québécoises des lésions médulaires. C'était du 10 au 22 septembre dernier. C'est M. Walter Zelaya, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je suis ravie de vous reparler aujourd'hui. Le sujet est le suivant. L'impact de la réforme de la santé et les risques d'effritement des centres d'expertise pour les personnes blessées médulaires.
Mais, oui.
Alors, en quoi la réforme de la santé pose-t-elle un problème pour les personnes blessées médulaires, M. Zelaya?
D'une part, il faudrait dire que les personnes blessées médulaires peuvent avoir accès depuis 19 ans à ce qu'on appelle des centres d'expertise. Les centres d'expertise sont composés par des établissements tant dans l'Est comme dans l'Ouest du Québec. Donc, il y a des centres de réadaptation ainsi que des hôpitaux qui en font partie. Alors, on a deux grands centres d'expertise et en fait, ces établissements-là ont des équipements et des installations physiques spécialisées pour la clientèle blessée médulaire. Mm-hmm. Et on a acquis plusieurs années d'expérience et d'expertise auprès de cette clientèle qui nécessite des soins médicaux et des services de réadaptation parmi les plus complexes dans le secteur de la traumatologie. Il faudrait dire que le modèle québécois des centres d'expertise est unique au Canada. Et jusqu'à tout récemment, on disait, et puis j'ose croire que c'est encore le cas, constitue l'un des fleurons de la continuité, du continuum des services en traumatologie au Québec. Donc, on parle de quelque chose de très, de services très spécialisés.
Oui.
Et qui sont comme, disons qu'avec toute la réforme qu'il y a eu, on a eu beaucoup de changements au niveau du personnel.
Bien sûr.
Des regroupements qui se font également. Et les personnels, d'une part, les personnels qui étaient là, souvent, ça pris des années à former ces gens-là. Mmh. Avec tous les chambardements qu'il y a, il y a une perte d'expertise qui se fait dans ce sens-là, d'une part. D'une autre part, il y a les compressions. Vous avez depuis des années qu'on subit des compressions, mais là, maintenant, on voit avec la réforme actuelle se concrétiser davantage ces compressions-là. Contrairement à ce qu'on nous dit, nous voyons finalement que il y a des services qui sont de plus en plus restreints, moins accessibles. Je pourrais vous parler, par exemple, de l'urologie en suivi à long terme, quelque chose qui est important pour les blessés médulaires. On regroupe les blessés, la clientèle blessée médulaire, avec d'autres, mettons, dans les centres de réadaptation, avec d'autres clientèle, alors qu'ils ont besoin d'être ensemble pour justement avoir les suivis nécessaires et appropriés. Les activités d'intégration sociale, ce qu'on appelle la réadaptation, accès sur l'intégration sociale, les RAE, ainsi que la réadaptation fonctionnelle intensive qui devient de plus en plus intensive et rapide, et souvent les gens n'ont pas le temps de suivre la cadence. Bref, donc, des problèmes en ce qui concerne le suivi pour les plaies de pression, vous voyez, ce n'est pas parce que le personnel qui est là n'essaye pas de faire de son mieux, mais ils sont souvent débordés. Ils n'arrivent pas à combler, à remplir la tâche. Et que les cadres qui étaient là se trouvent dans des situations aussi difficiles à gérer.
Qu'est-ce que vous pourriez proposer, M. Zelaya, à Mémo Québec, hein, parce que je vous rappelle que vous en êtes le directeur de Moelle Épinière et Motricité Québec. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour remédier à tout ça?
D'une part, il y a des protocoles qui existent. Mm-hmm. Il y a des mandats qui ont été donnés à ces établissements-là. Et nous voulons, par exemple, que ces mandats-là soient respectés complètement. Alors, nous avons écrit au cours des derniers mois à différentes instances, différentes CIUS. On a écrit au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et évidemment, on a des réponses très polies et gentilles.
Mais ça bouge pas.
Toutes nous disent comme si ça va bien, mais la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, nous autres, on demande que des mesures qui sont prises, qui vont à l'encontre des politiques, des protocoles, ben, ne soient pas appliqués pour les centres d'expertise. Je vous donne un exemple. Il y a actuellement la directive comme de quoi les lits doivent être utilisés à 99%, à 100%. Donc, un lit doit... Mais pour les blessés médulaires, ça fonctionne pas parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on va envoyer, donc, parce qu'il y a un lit qui est vide, on va envoyer ailleurs, dans un autre département, un blessé médulaire. Et finalement, un département où ils n'ont pas l'expertise pour assurer ce suivi-là. Donc, c'est un non-sens d'appliquer ces directives-là pour cette clientèle-là. C'est contre-productif, contre-productif et dans certains cas, ça pourrait être comporter des dangers, finalement, pour les patients.
Je suis toujours surprise, Monsieur Zelaya, lorsque j'entends parler des gens comme vous, de voir à quel point, finalement, Le patient est toujours la dernière roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire, on devrait s'occuper de lui en premier, et finalement, c'est celui qui passe en dernier, quoi.
Mais exactement, on n'arrête pas de nous dire quand on lit les documents, souvent les politiques, on voit que c'est les clients qui passent en premier. Mm-hmm. En principe, dans les papiers, dans la vraie vie, on se cachera pas que particulièrement au cours des dernières années, on a l'impression que c'est la question de la gestion budgétaire qui passe en premier. Et cela doit absolument changer si l'on veut vraiment sauver quelque chose qui est quand même, comme je disais au début, unique au Québec.
Bien sûr.
Et qui a fait les preuves.
Hein. Bien sûr.
Il faut dire là, que ces centres d'expertise-là ont fait leurs preuves. Dès que les centres ont été créés, la situation des clientèles qui ont passé par ces centres-là s'est nettement améliorée. À titre d'exemple, juste pour illustrer facilement, quelqu'un qui pouvait être un tétraplégique complet, mettons, suite à l'intervention et au travail qu'on fait dans les centres d'expertise, ces personnes-là peuvent être plutôt de tétraplégique incomplet, avoir une mobilité plus grande. Alors, c'est vraiment précieux comme expertise.
Écoutez, monsieur Zelaya, restons confiants, restons optimistes.
Hein? Exactement, on commence par informer les gens, d'une part, puis ensuite de ça, fort probablement, on va voir quelles sont les actions, si c'est nécessaire de faire appel à la population.
D'accord.
Pour justement se mobiliser particulièrement sur cette question-là. Puis encore une fois, merci beaucoup pour la tribune que vous nous offrez de pouvoir expliquer au public cette réalité-là.
Ça nous fait plaisir, Monsieur Zelaya, Monsieur Walter Zelaya, directeur de Moelle Épinière et Motricité Québec, Mémo Québec, qu'on peut rejoindre sur le site internet moelleépinière.com. Simplement, monsieur Zelaya, bonne fin de journée.
Merci à vous.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Nouvelle nationale maintenant, né avec une rare malformation qui l'a laissé pratiquement aveugle, un petit garçon de Selric au Manitoba a pu pour la première fois de sa vie contempler le visage de sa mère grâce à des lunettes électroniques. Lorsqu'il a mis ses fameuses lunettes, on a su que ça fonctionnait car son premier mot a été « Wow !» a raconté la mère de Benny, Jenna Kaysen, à CBC. Le garçon de 6 ans a ensuite versé quelques larmes avant de dire à sa mère qu'elle avait un gros nez, a poursuivi cette dernière en riant. Né avec l'amaurose congénitale de Leber, qui est une maladie génétique rarissime qui affecte entre 2 et 3 nouveau-nés sur 100 000, Benny a une vision de 20 sur 400. Légalement considéré comme étant aveugle, il parvient à peine à distinguer les silhouettes et les couleurs autour de lui. Grâce à une campagne de financement menée sur le site GoFundMe, la famille de Benny est parvenue à recueillir 25 000 $ auprès de près de 200 personnes. Et cette somme a permis de procurer une paire de lunettes électroniques eSight au garçon d'une valeur de près de 20 000 $ canadiens. Petite merveille technologique, les lunettes sont dotées d'une caméra qui capte en temps réel les images et les retransmet sur des écrans placés vis-à-vis des yeux. En plus de payer les lunettes, la somme offerte par les donateurs servira à aider le petit frère de Benny, Ashton. Il est atteint de la même maladie, mais lui, il est complètement aveugle et autiste. Ce petit garçon recevra des séances, entre autres, d'équitation thérapeutique. La doyenne de l'Alberta fête ses 110 ans. Pour son dernier anniversaire, le 4 octobre, Mme Jenny Sutherland a reçu une lettre de Rachel Notley, de Justin Trudeau et de la reine Élisabeth II, figurez-vous. Une célébration en grande pompe pour cette femme qui, à 110 ans, est la doyenne de l'Alberta. Mme Sutherland, qui n'a qu'une année de moins que la province qui a intégré la Confédération canadienne en 1905. Des changements, oh oui, elle en a vu depuis sa naissance en 1906, deux guerres mondiales, la Grande Dépression, l'arrivée des avions commerciaux, des téléviseurs, les premiers voyages dans l'espace, les ordinateurs et bien sûr Internet. Ses parents, les Thompson, ont émigré de la Norvège au Minnesota dans les années 80. Et d'ailleurs, la centenaire peut encore dire quelques mots dans la langue de ses aïeux. Ayez la foi, dites la vérité, gardez votre calme, c'est mon meilleur conseil pour garder la santé, de dire Mme Sutherland qui a eu 8 enfants, dont une fille décédée 2 jours après sa naissance. Aujourd'hui, Jenny Sutherland est la grand-mère de 26 petits-enfants et compte 129 ascendants directs. Sa fille est née à 88 ans. L'humoriste Mathieu Gratton travaille présentement sur un projet de web-série portant sur l'autisme. Lui-même père d'un adolescent autiste, il cherche à montrer le plus de nuances possibles de cette maladie, tant avec l'aide de jeunes atteints de ce trouble que de spécialistes en la matière. Il y a beaucoup de facettes et de dimensions que les gens ne connaissent pas, soutient-il. Une première capsule mettant en vedette son fils a été mise en ligne jeudi, récoltant plus de 110 000 clics en 5 jours. Les autres épisodes devraient être accessibles au cours de l'année prochaine. On ne donne pas le nom, le lien, mais j'imagine que si vous faites Mathieu Gratton Autisme, vous devriez trouver cela assez facilement. Demain, ne manquez pas ça, on parle à Mathieu Francoeur du mouvement FACE. Au sujet de cet appel à la participation, parce que vous êtes sans doute au courant qu'une campagne majeure du mouvement communautaire se prépare pour l'automne au sujet du financement, de l'autonomie et du réinvestissement dans les programmes sociaux et les services publics. Vous savez qu'il s'agit d'une campagne unitaire de l'Action communautaire autonome, l'ACA, sous l'égide de l'ensemble des regroupements nationaux et qui se déroulera sur plusieurs mois. Et la première partie aura lieu en novembre, on en a parlé déjà un petit peu plus tôt à l'émission parce que bien sûr ce sera partout en région aussi. Alors le contenu et les activités commencent à se préciser. Le 6 novembre, lancement national de la campagne par le comité de coordination de la campagne. Le 7 novembre, visite des députés dans chacune des circonscriptions. Les 8 et 9 novembre, 2 jours de grève. Fermeture, interruption d'activités régulières avec manifestations, actions, conférences, etc. Pour l'ensemble des régions, il faut communiquer avec votre TROC, TROC, pour les informations plus en détail. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent les Par Actualité pour cette journée du 1er novembre 2016. Je voudrais remercier très sincèrement l'équipe qui travaille fort tous les matins pour que je puisse vous apporter toutes ces nouvelles-là dans la demi-heure, entre 11h30 et midi, sur les ondes de Canal M. Alors merci Anne-Laure Janson et merci à Jean-Sébastien Laliberté. Je vous retrouve demain matin dès 11h30 et d'ici là, passez une excellente journée. C'était Clotilde Seille. Salut.